Chapitre 7. Silverman avait beau connaître le quartier, il ne le voyait plus avec les mêmes yeux. De grandes villas au milieu d'immenses pelouses, des arbres dont l'ombre couvrait les trottoirs. Les jacarandas étaient déjà en fleurs dans certains jardins, leurs bouquets bleus s'échappaient en cascades, tels des feux d'artifice figés. Si le soleil avait été de la partie, le spectacle aurait été magnifique, mais le gris du ciel donnait à l'ensemble une atmosphère lugubre, comme si tout ce luxe était en plein déclin, comme si un ordre nouveau avait pris possession des lieux. Ils se garèrent devant la maison d'Overton en attendant l'arrivée de Ramos et Huber. En dépit des liens douteux qu'il entretenait avec Robert Branwick, rien ne permettait de croire qu'Overton soit capable de mettre en danger la vie des agents du bureau. L'homme était un avocat à succès qui utilisait le système pour combattre le système, sans avoir recours pour autant à la violence, de sorte que la présence d'une unité d'intervention n'avait pas été jugée utile. Comme personne ne réagissait aux coups de sonnette répétés de Harrow, Ramos et Huber contournèrent la maison afin de voir si celle-ci était occupée, en vain. Cette précaution prise, ils déverrouillèrent la porte d'entrée à l'aide d'un pistolet de crochetage. Harrow ouvrit alors la porte sans déclencher d'alarme, signe que quelqu'un était là. L'ancien militaire annonça leur présence d'une voix forte en précisant qu'ils étaient munis d'un mandat, sans obtenir de réponse. Des lumières brillaient dans la plupart des pièces, ce qui était curieux, la grisaille ambiante ne nécessitant pas de telles illuminations. L'épais silence qui régnait dans la maison étouffait les mouvements feutrés des agents qui parcoururent le rez-de-chaussée en veillant à ne toucher à rien. Trois d'entre eux montèrent à l'étage, laissant Ramos en faction au pied de l'escalier. Le silence était assourdissant au premier. Guidé par son expérience et son instinct, peut-être aussi par une prémonition digne de celle d'un matador, Silverman y vit un silence de mort, né du cri silencieux d'un être définitivement réduit au silence. L'odeur qui flotta jusqu'à leurs narines lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre ne laissa plus de place au doute. Les lambeaux de vêtements, les attaches en plastique cisaillées et les traces de sang sur le sol de la salle de bain attenante auguraient mal du sort réservé à William Overton. L'odeur pénible se transforma en puanteur lorsqu'ils pénétrèrent dans le dressing brillamment éclairé. Il faudrait toute l'expertise d'un médecin légiste pour déterminer si le corps qui gisait sur la moquette luxueuse était celui d'Overton. À en juger par l'état de décomposition du cadavre en caleçon, la couleur verdâtre de la partie inférieure de l'abdomen et, à un moindre degré, des épaules et du cou, le visage gonflé et marbré, la victime était morte depuis plus de 36 heures. Si Robert Branwick avait été tué jeudi en fin de journée, ce que laissait croire l'examen de sa dépouille, Overton était passé de vie à trépas 24 heures plus tard. Les trois hommes regagnèrent le palier et Harrow contacta la police de Beverly Hills afin de lui signaler le crime. « Les couloirs sont équipés de caméras », nota Silverman. « Oui, il ne reste plus qu'à trouver l'enregistreur. » « Nous verrons que c'est bien elle », ajouta Silverman.
Il s'étonna intérieurement de n'avoir pas dit « Nous verrons si c'est bien elle ».
Sa certitude tenait peut-être de l'intuition, mais elle lui semblait venir d'une conviction infiniment plus profonde. Une sorte d'article de foi, comme si la perfidie de Jane lui était soudain révélée. Alors qu'il avait toujours éprouvé admiration et affection à son endroit, il portait désormais sur elle un regard sombre, au point de lire sur ses traits une dureté qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Une voix venue des tréfonds de son être allait même jusqu'à donner à Jane le surnom de menteuse patentée.